Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Dans l'épisode précédent, nous vous avons raconté la vie du bon docteur Roman, le père de famille, soi-disant brillant chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, apprécié de tous, a réussi à tromper tout son entourage et notamment son beau-frère Emmanuel Crowley, notre voix du crime. Mais après les meurtres de sa femme Florence, de ses deux enfants et de ses parents, le masque de l'imposteur Jean-Claude Roman tombe. Les proches sont sous le choc et découvrent l'étendue du mensonge. Le faux docteur remplissait en réalité le vide de ses journées sur des parkings ou dans des bibliothèques pour parfaire ses connaissances médicales et rendre son personnage crédible. Pour assurer le train de vie de sa famille, il faisait miroiter de juteux placements financiers à ses proches afin de leur subtiliser leur épargne. Dans cette seconde partie, nous allons tenter de décortiquer cette vertigineuse spirale de la dissimulation, comprendre pourquoi un homme à l'apparence ordinaire s'est construit un personnage et surtout, pour quelles raisons il a choisi d'éliminer les siens. Emmanuel Crowley, bonjour.
Bonjour.
Ce 11 janvier 1993, vous apprenez que Jean-Claude Roman est celui qui a tué votre sœur et ses deux enfants. Il va mettre plusieurs jours à sortir du coma. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là ?
Moi, je m'en souviens. Bon, maintenant, il y a un recul, mais sur le moment, ça a été un effroi considérable pour moi. On apprend forcément qui il est, ce qu'il a fait, mais on ne sait pas du tout dans quelles conditions il est détenu à l'hôpital de Saint-Julien. Et ma peur à ce moment-là, c'est de me dire, si jamais il s'échappe, il va finir le travail. Et on n'a aucune information sur le fait s'il est gardé, pas gardé, puisqu'il n'est pas encore mis en examen, puisqu'il n'a pas avoué. Et donc tout ça, nous, on n'a pas d'information. On ne savait pas encore les mobiles. Le mobile en lui-même, on ne l'avait pas. Tout était imaginable et on se dit, mais s'il a pété un câble ou s'il y a des choses un peu particulières dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas le travail en sens qu'il va détruire tout ce qui faisait sa vie ou sa pseudo-vie, dans laquelle il y avait ma mère, dans laquelle j'y étais moi, il y avait mon frère. Donc à un moment donné, il y a une certaine crainte de se dire que quand quelqu'un a été capable de faire tout cela, se dire à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait... Qu'est-ce qui le freinerait ? Quand vous ne savez pas s'il est tenu, il est gardé, et qu'il puisse s'échapper, vous êtes dans un délire complet. Et chez ma mère, je me rappelle très bien, je regardais toutes les heures par la fenêtre savoir s'il arrivait... Avec en plus un élément qui m'a conforté dans mon comportement-là, c'est qu'il avait le droit d'envoyer des courriers, et à ce moment-là, c'était des télex, à qui il le voulait. Et à ce moment-là, il envoie un télégramme à ma mère. Il était encore sur son lit d'hôpital à Saint-Julien. Les mots exacts, je ne les ai pas, mais disant, voilà, bonjour, c'est Jean-Claude, tout va bien, j'ai pas de nouvelles des enfants et de Florence. Marc, donc, qui est un ami d'enfance de ma sœur et qui est devenu un très bon ami de Roman, donc Marc Vitel-Durand, qui est médecin prévecin, il dit « Marc a plus de nouvelles que moi, bise Jean-Claude ». Et il envoie ça à ma mère. C'est ignominie d'envoyer ça à ma mère. Et donc, il savait très bien ce qu'il avait fait, il savait très bien que ma mère savait tout cela, mais il joue encore ce personnage-là. Et donc, quand je reçois ce télégramme, je me dis « mais... personne ne le garde. » Et c'est à ce moment-là que je fais une demande auprès du juge de l'époque, je crois, en exigeant que Roman ne nous adresse plus aucun courrier. Et là, je reçois une fin de non-recevoir en disant « Non, on ne peut pas se permettre de dire à Roman de ne rien vous envoyer. Donc, s'il veut continuer à vous envoyer des choses pareilles, il le peut. »
Alors, Jean-Claude Roman ne va pas tout de suite avouer ses crimes. Comment ça va se passer ?
Il va, dans un premier temps, ne pas avouer. Il va mettre à peu près 7 jours, 6-7 jours pour avouer. Donc, ça veut dire qu'il est très lucide, il sait très bien ce qu'il a fait et qu'il était loin de vouloir se supprimer. Sinon, il aurait pu le faire facilement puisqu'il avait les armes à sa portée. Et donc, il est lucide et il va jouer celui qui ne comprend pas et qui a vu rentrer soit un homme barbu, ou je ne sais plus trop, il trouve deux versions qui ne convainquent de toute façon pas les enquêteurs, et notamment pas l'un de ses avocats, qui lui dira à la fin, bon, maintenant on sait tout, c'est pas à peine de tourner autour du pot, avouez, et il écoute son avocat, qui dit, ok, il avoue.
Et à ce moment-là, est-ce que vous savez comment se sont déroulés les meurtres ?
Les éléments des circonstances du meurtre, des meurtres, on les apprend lors des reconstitutions, hein, tout au moins lors des aveux de roman, ou, qui sont très difficiles à obtenir. Donc en fin de compte, comment ça s'est passé ? Ce qui est troublant, c'est qu'il y a 4 personnes qui sont tuées dans le dos, ses 2 enfants et ses parents. Et ma sœur, qui a été la première personne à être tuée et voire massacrée, ne l'a pas été avec le fusil, elle l'a été avec un rouleau à pâtisserie. Mais c'est ce fait... Donc le premier qui a lieu dans la nuit du vendredi au samedi, dans la matinée ou dans la nuit, puisque au roman dit je me réveille à côté du corps de Florence et avec le rouleau à pâtisserie dans les mains. Donc là, il se rappelle pas. La veille, il y aurait eu une dispute ou il y aurait eu une discussion suite à un coup de téléphone de ma mère. Donc ma sœur aurait échangé avec ma mère le vendredi soir, et a échangé avec ma mère, ce que ma mère l'a dit, et ma sœur était énormément affectée suite à ce coup de fil-là. Elle était triste à ce moment-là, et voilà. Ma sœur a été autopsiée avec 0,5 g d'alcool dans le sang 3 jours plus tard, donc ça veut dire qu'elle avait consommé excessivement d'alcool dans cette nuit du vendredi au samedi, chose qu'elle avait... jamais l'habitude de faire. Elle buvait, je veux dire, elle participait au repas comme ça, mais ça, c'est un élément troublant, sur lequel Roman ne s'est jamais expliqué. Donc, il tue ma sœur, et ensuite, chronologiquement, le matin, il a un coup de fil, je crois, dans la matinée, des amis d'Antoine, chez qui il doit aller faire un anniversaire, et la veille, d'ailleurs, ensemble, en famille, ils sont allés acheter des cadeaux pour les petits copains ou petites copines d'Antoine et de Caroline. Donc, il y a un truc machiavélique de la part de Roman qui dit la veille, le vendredi, tout se passe bien. Il va même faire les cadeaux pour l'anniversaire auquel vont participer ses enfants. Et dans la nuit, bizarrement, il y a quelque chose qui se passe. Et il ne s'est jamais expliqué sur ce quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui, pour moi, m'interpelle. Et il n'a jamais voulu le dire. C'est un trou blanc. Je ne sais pas, il se réveille comme ça. Ni le contexte de la soirée avec ma sœur et pourquoi elle avait autant d'alcool dans le sang, ni le lendemain matin, les circonstances de la tuer. Toujours est-il que le matin, je pense que compte tenu qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, il ne peut plus reculer. Et il va donc tuer son fils, en lui faisant croire qu'il va lui prendre la température ou je ne sais pas quoi. Il l'a fait monter dans sa chambre. Il lui met un oreiller sur la tête et de dos avec la carabine, il lui tire dans le dos et les balles arrivent au cœur. Et il fera pareil avec Caroline. Ensuite, calmement, il va prendre sa voiture et il va manger comme c'est prévu auprès de ses parents à Clairvaux-les-Lacs, dont à 1 heure de voiture. Et là-bas, après manger, s'il va manger avec eux, donc il sait déjà que de toute façon, il va les tuer, puisqu'il a pris sa carabine avec lui, avec des balles qu'il avait achetées dans la semaine précédente. Donc c'est le côté préméditation au niveau de ces crimes-là. Il va tuer ses parents, là encore de dos. Et puis il va finir en tuant son chien.
Alors tout cela se passe un samedi, et puis il va contacter une de ses amies, on peut dire que c'est sa maîtresse, hein, Madame Delalande, qui habite Paris.
Tout à fait. Il va contacter son amie Madame Delalande, prétextant qu'il veut l'inviter le soir à un repas chez Kouchner. Et donc, il fait la montée sur Paris en voiture. Et c'est à ce moment-là que, bien sûr, il n'y a pas de repas et qu'il va essayer de tuer. Et ça, j'en suis persuadé, il voulait tuer aussi Madame Delalande. Elle a une chance inouïe, elle s'en sort. Et tant mieux. Et après, il décide de revenir chez lui. Donc, il refait le parcours en sens inverse, pour revenir chez lui. Il va passer la journée de dimanche. J'imagine la journée et l'ambiance macabre dans cette maison, où il va tuer le temps, il va aller sur des chaînes de télé. Il faut savoir que ce jour-là, ou je crois que c'était la veille, j'avais moi essayé d'appeler ma sœur. Et les enquêteurs vont retrouver effectivement mon appel téléphonique, je crois que du samedi matin au dimanche matin, voulant les joindre pour leur savoir si ça se passait bien et tout, et il ne répondra pas, et mon appel restera sans suite. Et puis la journée du dimanche passe, Et c'est pendant la nuit du dimanche au lundi. Là encore, il avait prémédité son geste de mettre le feu à sa maison, puisqu'il y avait des jerrycans de gasoil. Il met le feu méticuleusement à la maison, mais en prenant soin de mettre quand même des serviettes mouillées sous sa porte pour que les fumées n'arrivent pas dans sa chambre. Il prend des barbituriques qui sont à effet lent, périmées, faisant croire qu'il voulait se suicider. Et puis, au matin, ouvrant la fenêtre au moment où les pompiers arrivent, où les éboueurs arrivent, et qu'ils donnent l'alerte parce qu'il y a un petit panache de fumée qui commence à s'échapper de la maison. Eux, ils appellent les pompiers et ils vont le sauver. Et voilà comment ça s'est.
L'enquête dévoile l'étendue de la supercherie. Jean-Claude Roman, qui disait travailler à l'OMS, n'est pas fonctionnaire international. Il ne travaille ni là-bas, ni nulle part d'ailleurs.
Alors, je pense qu'il avait un job à plein temps, c'est d'être menteur. Et son travail à plein temps, c'était d'avoir un coup d'avance en permanence sur ce qui va arriver demain, après-demain et après-après-demain. Donc il lui fallait toujours cette vision-là. Il travaillait en permanence son personnage pour cela. Et c'est pour ça, je pense, qu'il prenait peu de vacances avec ma sœur et les enfants. Il prenait que 2 ou 3 jours de vacances, je pense, pour avoir une liberté totale de décider ce qu'il allait faire. Pour justement pouvoir, pour être insaisissable et ne pas trop rester à un endroit donné. Il y avait, je pense, un côté comme ça. Et puis, il amenait tellement d'éléments complémentaires en permanence sans qu'on lui demande, parce que c'est son travail, faire croire qu'il avait un accident. Un jour, on était là-bas, ma sœur nous dit, il y a eu un accident sur l'autoroute entre Genève et Lausanne. Il avait une Mercedes, elle a fait 3 tonneaux, il est rentré en hélicoptère à l'hôpital. Et puis le soir, il était tout fatigué et tout égratigné et tout. Puis c'est le temps qu'il y a passé, plus de 20 ans, fait que forcément, vous devenez expert en la matière. Dans son entourage, il apportait le change. C'est-à-dire qu'on voyait de lui un médecin chercheur OMS, il donnait cette image-là, il faisait tout pour. Donc il bernait tout le monde et il mentait. C'est avant tout un menteur, c'est pas un mythomane, c'est avant tout un menteur. Il sait très bien ce qu'il fait. Et donc, il était dans ce personnage-là, et il apportait cet élément-là, qui était fondamental pour se construire lui, parce que c'est une coquille vide. C'est quelqu'un qui est vide, et donc il n'existe qu'au regard, au travers du regard des autres. Donc si le regard des autres le comble et va dans le sens du personnage qu'il s'est construit, il sera content. C'est quelqu'un qui est orgueilleux et je pense que son orgueil a pris le dessus et ça, il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter parce que c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres sans le montrer, mais qui se croit vraiment en termes d'intelligence au-dessus des autres et donc il ne supporte pas qu'on puisse à un moment donné écailler le personnage de Monsieur Roman et toute l'intelligence pour lui, selon lui, qu'il a mis et toute la force qu'il a mis dans son personnage, dans cette vie de mensonge et l'énergie qu'il y a mis, et Dieu sait qu'il en mettait puisque je pense que ça devait l'épuiser. Je pense qu'il ne supportait pas qu'on dise du jour au lendemain c'est un minable et il ne vaut rien. C'est tuer plutôt que de perdre la face, c'est tuer pour ne pas avoir à affronter un regard aimant de sa femme et de ses enfants qui allait lui montrer qu'il est rien et qu'il est minable. Et ça, il ne peut pas l'accepter.
Alors, la grande question qui se pose, c'est comment il a fait pour mener son train de vie sans travailler. Et on découvre à ce moment-là que Jean-Claude Roman proposait des placements financiers en Suisse qui s'avère aussi complètement faux.
Ce placement en Suisse, il l'a fait miroiter ou directement ou indirectement à beaucoup de personnes de son entourage. Il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment des faits, il y a eu une grande peur de dire si jamais on apprend qu'on a placé de l'argent en Suisse et qu'on n'avait pas le droit de le faire, ça risque de nous revenir dans la figure. Et c'était la grande question qui s'est posée à ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu d'état d'âme. J'ai dit qu'il faut qu'on le dise exactement ce qu'il en est. Et donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens à qui là, on a détourné et qui ne se sont pas manifestés, peut-être?
Qu'est-ce qui vous pousse, vous, votre père, votre frère et même des oncles et des tantes à lui confier votre argent?
Quand mon père est parti en retraite, son rêve étant un rêve, tout au moins se faire plaisir à ce moment-là, c'était d'acheter une voiture. Et donc, sachant que Roman pouvait lui placer de l'argent pendant un an à 16%, mon père avait calculé que si à un moment donné il lui donne de l'argent, ça lui permettait de, plutôt que d'avoir un leasing ou un système via la banque, de gagner un peu d'argent. Et donc il a fait profiter Roman de cette manne d'argent. Et au moment où Roman devait lui rendre cet argent, parce qu'à certaines dates, il va falloir payer les différentes traites de la voiture, Roman devait lui rendre de l'argent. Et la première traite devait avoir lieu en janvier 89, et mon père est mort en octobre 88. Sans savoir qui était Roman, en se remettant dans ce contexte-là, vous avez quelqu'un qui travaille à l'OMS, qui est soi-disant donc fonctionnaire international ou qui a un statut qui nous dépasse. C'est-à-dire que nous, c'est un autre monde, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. Donc forcément, on ne peut qu'entendre et admettre et accepter ce qu'il dit. Il nous dit pouvoir... alors, pas directement, il le fait dire, il en parle. Et ça a toujours été son fonctionnement. Il va semer des petits cailloux comme ça, comme le petit pousset. En lâchant que, bah, compte tenu de son statut, il a accès à des placements fort intéressants en Suisse, de l'ordre de 16%, ou cet ordre-là. Mais ce n'est pas lui qui va ouvrir le débat en plein repas ou autre. Non, il va lancer l'idée, et au moment où une personne aura de l'argent disponible, un interlocuteur, ça peut être ma sœur, qui dit, bah, tiens, en fait, est-ce que tu te souviens, Jean-Claude, il peut t'aider lors d'une discussion. Et donc, il attend, je veux dire, comme les pêcheurs au bord de la rivière, il attend que la truite vienne mordre à l'hameçon. C'est exactement ça. Mais ça va être dans son personnage. Il a beaucoup de temps. Il attend qu'au beau moment, il y ait le poisson qui morde. Et c'est comme ça qu'il va progressivement récupérer de l'argent auprès de mon père, auprès de moi, des petites sommes, hein, auprès de Madame de Lalande, auprès de pas mal de gens, voire même il va faire croire que, par des subterfuges auprès d'un oncle de ma famille qui avait un cancer, qu'il peut avoir des médicaments miracles qui sont en train d'être mis au point parce qu'il est dans les labos et autres. Là aussi, il va récupérer de l'argent. Mais tout ça, il le fait d'une façon totalement indirecte. Voilà son fonctionnement. C'est ce côté furtif, insaisissable, qui est spécifique vraiment à ce personnage-là. Physiquement, mais aussi mentalement, c'est quelqu'un qui est très difficile à cerner, et les psys le diront plus tard, hein. Et donc il va jouer là-dessus. Il joue sur un flou artistique permanent qui l'accompagne, et ce qui va lui permettre tout le temps d'être masqué quelque part, je ne sais pas si c'est clair, mais de se réfugier là derrière et de ne jamais être à découvert.
Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la prison à perpétuité pour les meurtres de sa femme, de ses enfants et de ses parents. 22 ans plus tard, en 2018, il demande sa remise en liberté conditionnelle. C'est donc là qu'un nouvel élément va arriver à vos oreilles, hein, Emmanuel Crowley.
Et à ce moment-là, il y a des gens qui ne vont pas supporter l'idée que cet homme puisse ressortir de prison. Et se disent, devant la détresse ou la difficulté d'accepter que Roman sorte de prison de notre part, hein, et me voit passer dans les médias, m'entendre dans les médias, se disent, on va essayer d'apporter une pierre à l'édifice. On ne sait jamais, ça peut marcher, de faire en sorte que Roman ne puisse pas sortir de prison, tout au moins freine sa sortie de prison. Et c'est à ce moment-là qu'on me contacte. C'est donc un monsieur de Prévecin, ancien journaliste, qui me dit tout simplement qu'un jour, il est dans la file d'attente de la signature du livre de Kouchner que Roman avait et qu'il avait fait dédicacer par Kouchner. Devant lui, il y a un monsieur qui insiste un peu, qui discute avec Kouchner, qu'il est en disant qu'il est fonctionnaire international, qu'il travaille à l'OMS, mais qui est un peu long. Et Kouchner commence à lui dire, bon, c'est bon, monsieur, il y a des gens derrière vous. Et au moment où cette personne se retourne, c'est justement Roman qui est devant ce monsieur-là. Et puis, ça se tient là. Et donc, la personne qui suit fait dédicacer son livre et tout. Le temps passe. Et en décembre 92, ce même monsieur se retrouve à Genève avec des amis dans un bar et voir entrer dans le bar une personne relativement affolée, une dame qui est affolée et qui, ou tout au moins affolée, ou qui n'est pas bien, qui, qui, qui semble un petit peu agité. Et donc, par gentillesse, il leur demande ce qui se passe. Donc, cette dame explique rapidement qu'elle est un petit peu déboussolée parce qu'elle connaissait quelqu'un qui était médecin. Elle pensait passer Noël avec cette personne-là. Et puis, elle se rend compte que cette personne-là ne l'appelle pas. Elle est toute seule. Et donc, elle se livre à ce monsieur-là. Elle a une photo d'identité de ce monsieur. Il se trouve que c'est Romain. Et là, le monsieur se dit, mais c'est la personne qui était devant moi à l'époque lors de la signature du livre de Kouchner. Et ça en reste là. Ça, c'est en décembre 92. Sur ce fait, les crimes et les assassinats ont lieu en janvier 93. Ce monsieur se dit, bon, c'est pas la peine que j'en rajoute à la famille, ils ont déjà suffisamment de peine, je ne dis rien. Et c'est au moment où il apprend la demande de libération de Romain qu'il me contacte et qu'il m'explique tout cela. En m'expliquant que cette personne-là, semble-t-il, était une personne avec qui Romain a une liaison et qui, apprenant que Romain n'était pas médecin, ne pouvait pas le supporter, apprenant que Romain lui avait dit « on passera Noël 92 ensemble », il lui pose entre guillemets un lapin, lui dit « non, ce ne sera pas possible », ne le supporte pas, se trouve totalement démuni et cherche à retrouver ce Romain avec cette photo.
Elle serait allée voir votre sœur ?
Alors, maintenant, il y a toutes les hypothèses. Cette dame, j'ai la photo de cette dame, qui serait d'origine sud-américaine. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est très difficile. Mais ce serait un élément qui, pour moi, m'apaiserait, me montrerait que nous n'avons pas tort et que nous n'avons pas tort de penser que Romain est un manipulateur, est un menteur et ne mérite pas l'attention qu'on a portée sur lui avec une certaine bienveillance et de dire « attention, cette personne n'a pas changé » et que ça aille dans le sens du premier jugement qui a dit « non, on refuse que Romain sorte de prison ». Mon combat est là, c'est simplement de dire à un moment donné « on n'est pas dupe, on le connaît ». Hélas, il a joué de nous, mais faites attention, il joue de tout le monde. Et quand j'ai encore eu récemment un témoignage d'un gardien de prison qui m'a dit « mais votre beau-frère, en prison, il se faisait appeler encore docteur ». Donc, il a banané tous ceux qui, à un moment donné, ont cru en lui lors de sa demande de libération conditionnelle. Et ça va continuer.
En 2019, Jean-Claude Romain obtient donc finalement sa liberté conditionnelle. Il est accueilli à l'abbaye de Fontgombault, dans la Creuse. Le jour où vous l'apprenez, Emmanuel Crollet, vous êtes interrogé sur RTL. Écoutez.
On est choqué, je suis très fatigué. Ça fait 11 mois que c'est pas nous battons. On essaye de faire entendre une vérité. Et le mot est important. Connaissant Romain, face à quelqu'un qui maintenant, c'était un faux médecin, c'est un vrai menteur. Et je pense et je continuerai à rester sur cette ligne-là. Il a menti, il continue à mentir. Maintenant, il remplit sa nouvelle coquille vide par quelqu'un qui veut la rédemption, qui, au travers d'une foi sans limite, espère le pardon. Je suis un petit peu déçu que ce pardon, quelque part, lui soit donné en lui donnant
liberté conditionnelle.
Liberté conditionnelle, tout à fait.
Jean-Alphonse Richard.
Qu'est-ce que vous attendez de son attitude à Jean-Claude Romain aujourd'hui ?
Aucune. Quand j'entends que vous relatiez que il se ferait très discret pour aller dans cette communauté religieuse vis-à-vis de nous, le mot est peut-être pas adapté, mais il est très gonflé de se permettre ça. Je pense qu'il aurait mieux fait de se taire et à un moment donné de ne pas faire appel, puisque je cite simplement ses derniers mots lors du procès de 1996. Il a dit « j'ai voulu assumer et le jugement est le châtiment ». Et je pense que par le biais de son appel, il a demandé une première fois, ça a été refusé, il fait appel. Là, encore une fois, il ment et donc ce n'est pas un homme qui va au bout de ses décisions. C'est quelqu'un qui remet en cause ce qu'il lui-même avait dit à l'époque. Et donc, c'est un menteur.
Est-ce que vous envisagez encore une action judiciaire ? Est-ce que c'est possible ou pas ?
Non, c'est plus possible. Il a gagné.
Ce jour-là, sur RTL, vous avez dit « il a gagné ». Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Il a gagné en sens qu'il voulait sortir de prison. Il a réussi à sortir de prison en réussissant à faire croire que c'était quelqu'un d'honnête et qui méritait cette sortie de prison malgré un premier refus du tribunal de Châteauroux. Donc il a gagné, il a persévéré, il y est arrivé. Il a gagné à démontrer que c'était lui qui sera le premier et non pas nous, et non pas les victimes. Et ça conforte son positionnement d'orgueilleux et qui ne supporte pas l'échec. Il l'a dit, il ne supporte pas l'échec. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas l'échec et qui n'accepte pas l'échec.
Emmanuel Crolley, à la fin de ce mois de juin 2021, Jean-Claude Roman ne sera plus soumis à un bracelet électronique. Il sera donc à nouveau libre de ses mouvements. Qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est quelqu'un qui est présent tout le temps. C'est quelqu'un qui, comme un virus, j'allais dire, est présent en nous en permanence et se matérialise dans des rêves, dans des... Bref, c'est quelqu'un... Quel que soit le moment de la journée ou dans la semaine, il y a forcément quelque chose qui vous rappelle au passé. Ma sœur, mon père, un objet, des photos, n'importe quoi. Donc forcément, il sera toujours présent. Maintenant, il a une intelligence telle qu'il ne va pas se permettre ça. Il sait très bien que ça ne portera pas grand-chose. Maintenant, j'ai plus peur pour d'autres qu'il va manipuler et qui sont totalement, alors là, pour le compte, naïfs, voire naïfs. Mais tel est leur souhait, ben, tant pis pour eux. Alors que je pense qu'il y a d'autres personnes qui mériteraient attention, et plus d'attention et d'attention affective et pécuniaire que Roman. J'ai plus cette peur-là, mais c'est ça actuellement, c'est cette colère-là qui me motive. Et c'est cette colère que j'ai, c'est ce qui fait que j'accepterai jamais tant que de toute façon Roman sera en vie, ça c'est clair.
Vous venez d'écouter la seconde partie des Voix du crime consacrée à l'affaire Jean-Claude Roman. Un grand merci à Serge Puyot pour la réalisation de cette interview. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.